Assez souvent, et peut-être même la plupart du temps, les psaumes commencent mal, mais ils se terminent bien. Si ça commence dans des paroles de doute, dans des situations de crise, de difficulté, où l'auteur du psaume parfois crie à Dieu, appelle au secours, au Seigneur, et petit à petit, il y a une évolution, et le psaume se termine bien dans des paroles de confiance, dans des paroles d'espérance, dans des paroles de joie et de louange et de reconnaissance. J'aimerais qu'on lise ce matin un psaume où c'est l'inverse qui se passe. Ah oui, il y a un psaume qui commence bien et qui finit mal. C'est le psaume 95. Poussons des cris de joie pour le Seigneur. Acclamons le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec reconnaissance, avec des psaumes, acclamons-le. Car le Seigneur est un grand Dieu. C'est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes lui appartiennent. La mer lui appartient, c'est lui qui l'a faite. La terre ferme aussi, ses mains l'ont façonné. Venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou devant le Seigneur qui nous fait, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple qu'il fait paître, le troupeau que sa main conduit. Si aujourd'hui vous l'écoutiez, ne vous obstinez pas comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert, où vos pères m'ont provoqué, en m'éprouvant, bien qu'ils aient vu mon action. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération d'égout, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi j'ai juré dans ma colère, en aucun cas ils n'entreront dans mon repos. Je vous avais averti, hein? C'est un psaume qui commence bien, mais qui se termine mal. Il faut dire que si on s'était arrêté au verset 7, formidable, hein, on aurait recommencé un moment de louange après le verset 7. On aurait eu envie de chanter des chants joyeux de louange, d'adoration, et de dire c'est formidable, c'est un beau psaume de louange. Mais il y a le verset 7, la fin du verset 7. La deuxième partie du psaume qui vient offrir un contraste étonnant. Si on y regarde un peu de près dans ce psaume, il me semble que dans cette deuxième partie, c'est un peu comme si le Seigneur répondait à la louange de son peuple exprimée dans les premiers versets du psaume. Parce que c'est bien le Seigneur qui parle à partir du verset 8. Ne vous obstinez pas comme au jour où vos pères m'ont provoqué. C'est bien le Seigneur qui parle, il n'y a pas de doute. Et avouons qu'il casse un peu l'ambiance, le Seigneur, dans la deuxième partie de ce psaume. Nous sommes le peuple qu'il fait paître. Vraiment? Vous êtes sûr? Nous sommes le troupeau que sa main conduit. Tu parles? Vous l'écoutez même pas. Et c'est bien là le problème, l'écoute. Parce que la deuxième partie de ce psaume nous interpelle sur la qualité de notre écoute du Seigneur. Si aujourd'hui vous l'écoutiez. C'est cette phrase, la fin du verset 7, qui fait tout basculer dans ce psaume. Les paroles qui suivent et qui sont mises dans la bouche du Seigneur par l'auteur du psaume sont là pour constituer une sévère mise en garde contre le peuple du Seigneur. Et qui nous rappelle une vérité essentielle que nous savons, mais qu'il est utile d'entendre tout à nouveau, régulièrement. Une belle confession de foi, c'est bien. Mais c'est pas suffisant. Il suffit pas de dire des choses formidables et merveilleuses sur Dieu, des choses très justes, très bibliques, très évangéliques. Ça suffit pas. Si cela n'impacte pas réellement dans notre vie. Parce que l'essentiel, et c'est ce que ce psaume finalement veut souligner dans sa deuxième partie, l'essentiel, c'est d'écouter. et d'écouter vraiment le Seigneur. Parce que vous savez, hein, on peut écouter, on peut entendre, pardon, voilà, on peut entendre sans écouter, on peut aussi écouter sans comprendre, et on peut comprendre sans mettre en pratique. Et la véritable écoute nécessite au moins ces trois étapes. Écouter, comprendre et mettre en pratique. Écouter Dieu vraiment, c'est lui offrir une écoute attentive. Une écoute qui demande de l'effort, qui demande parfois de la discipline. Une écoute dans notre vie qui demande peut-être, sans doute en premier lieu, pour nous, de prendre le temps d'écouter le Seigneur. Et ça, ça demande parfois un effort, ça demande parfois une discipline, de prendre le temps de la prière, de prendre le temps d'ouvrir sa parole et de l'écouter nous parler. Ne nous étonnons pas si nous pensons que Dieu ne parle pas, si nous ne prenons pas le temps de l'écouter. Écouter attentivement le Seigneur, c'est là, bien sûr, la première étape d'une écoute réelle, véritable. Mais elle nous invite, ce psaume ici nous invite à une compréhension sans cesse renouvelée de la parole de Dieu pour nous. De pas seulement, pour vraiment écouter Dieu, pas seulement se contenter de ce qu'on sait, de ce qu'on a appris, de ce qu'on a acquis. Voilà, au bout d'un certain nombre d'années de vie chrétienne, bon, ben on a à peu près fait le tour du sujet, quoi. Hein, on a des bonnes bases, on peut se laisser aller, quoi. Et le Seigneur nous dit de l'écouter et d'essayer de comprendre de façon sans cesse renouvelée ce qu'il a à nous dire. Non pas se dire, ben voilà ce que je sais, de toute façon, c'est bon, c'est une bonne base, mais se demander, qu'est-ce que Dieu veut me dire aujourd'hui, maintenant, dans la situation où je me trouve, dans les choix que je dois faire, dans ma vie quotidienne, aujourd'hui, en 2011, le 27 mars 2011, qu'est-ce que le Seigneur a à me dire ? Comprendre ce que Dieu veut de moi et pour moi aujourd'hui. C'est cela aussi l'écouter. Et l'écouter alors, bien sûr, après avoir compris ce que le Seigneur veut de nous, ce qu'il attend de nous, c'est de le mettre en pratique. Dans la Bible, lorsqu'il est question d'écouter, il y a toujours la mise en pratique qui est sous-entendue. Il n'y a pas de véritable écoute s'il n'y a pas une mise en pratique de ce qui était entendu. Parce que la mise en pratique, c'est le signe de l'appropriation. C'est le signe que cette parole de Dieu n'est pas entrée dans une oreille pour ressortir par l'autre. Qu'elle n'a pas glissé sur nous comme de l'eau sur les plumes d'un canard, mais qui a pris racine dans notre cœur et qui porte du fruit dans notre vie. Écouter la parole de Dieu, c'est comprendre ce qu'il a à nous dire, à nous aujourd'hui, et c'est mettre en pratique, vivre cette parole, se l'approprier, se la faire sienne, et qu'elle ne nous reste pas extérieure. Écouter, c'est là l'essentiel pour nous. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle, si seulement vous l'écoutiez, nous dit-il. Et on ne peut écouter le Seigneur qu'avec le cœur. Si on regarde dans ce psaume, il y a un problème de cœur. Parce que c'est le cœur qui entend la voix de Dieu, pas les oreilles. Dans la Bible, vous savez sans doute que le cœur, c'est une notion très riche. Pour nous, le cœur, on l'associe plutôt aux sentiments, voilà. Alors que dans la Bible, le cœur, c'est le centre de notre vie intérieure. C'est moins le siège des sentiments que celui de la volonté. C'est là où tout se décide, dans nos vies, dans nos actions, dans notre façon de vivre, dans nos pensées. C'est le quartier général de notre vie, le cœur. C'est là que tout doit changer pour que notre vie change. Or justement, il y a dans ces quelques versets de la deuxième partie de ce psaume, deux mises en garde en lien avec le cœur. Le verset 8, littéralement, c'est N'endurcissez pas votre cœur. Et le verset 10, cette parole finalement assez dure du Seigneur envers son peuple en disant c'est un peuple dont le cœur est égaré. Avoir le cœur dur et avoir le cœur égaré, c'est ne plus pouvoir écouter, entendre Dieu nous parler. Un cœur dur, un cœur endurci, c'est un cœur fermé. Un cœur qui ne laisse plus rien entrer. Peut-être fermé parce qu'il est fermé sur lui-même et qu'il veut garder ce qu'il a déjà, mais qui est imperméable à ce qui peut provenir de l'extérieur, y compris de la part du Seigneur. C'est un cœur qui s'est enfermé dans une carapace. Une carapace d'orgueil, une carapace de peur, une carapace de préjugés. Est-ce que nous n'avons pas parfois de telles carapaces dans notre vie ? Bon, parce qu'on a besoin de se protéger, parce qu'on a peur ou parce qu'on pense qu'on n'a plus besoin des autres. Une carapace qui nous enferme et qui nous rend imperméables à ce que Dieu voudrait y faire entrer. Celui qui a son cœur fermé n'entend plus Dieu lui parler. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne parle plus, c'est parce qu'il est devenu incapable de l'entendre. C'est parce qu'il y a une carapace, une coquille qui le rend imperméable à la parole de Dieu. Brisez la carapace, brisez cette coquille et vous entendrez à nouveau Dieu vous parler. Et puis le cœur égaré, le cœur perdu dont il est question au verset 10, c'est un cœur qui peut-être n'a pas cette carapace, mais qui pour autant ne sait plus où il en est. Un cœur qui entend, mais qui ne comprend plus. Il entend Dieu lui parler. Il entend ce que des promesses, des vérités bibliques. Il entend Dieu lui parler, mais il ne comprend pas. Il ne comprend plus. Avant, il comprenait. Maintenant, il a l'impression de ne plus comprendre. Ou alors, il comprend, mais de travers. Il interprète mal. Il a perdu les clés pour comprendre. Et peut-être que ce matin, vous êtes dans l'une ou l'autre de ces situations. Peut-être avez-vous un cœur enfermé dans une carapace ou un cœur qui semble perdu, incapable d'entendre encore ce que Dieu veut dire. Peut-être que vous avez l'impression que Dieu ne vous parle pas ou qu'il ne vous parle plus ou que ce qu'il vous dit vous paraît incompréhensible. Vous ne comprenez plus ce qu'il veut, ce qu'il attend de vous. Peut-être. Et je dirais même que un jour ou l'autre, tout chrétien peut connaître ce genre de situation. Alors peut-être que ce psaume vous invite à reconnaître que vous avez construit peut-être une carapace, petit à petit, autour de votre cœur. Peut-être que, avec le temps, avec la routine, avec les années de vie chrétienne, peut-être que vous avez laissé petit à petit votre cœur s'égarer, perdu un peu loin du Seigneur. Ce psaume vous invite ce matin, à vous dire qu'il est temps peut-être aujourd'hui de quitter cette carapace, de retrouver le chemin de l'intimité avec le Seigneur. Le voile est déchiré. L'accès à Dieu nous est ouvert. Il est peut-être temps de retrouver un cœur ouvert et confiant. C'est ce cœur-là qui entend la voix de Dieu. Reste que ce psaume se termine mal. On l'a dit. Il parle d'un repos que Dieu ne donnera pas à son peuple. La fin est assez noire. Est-ce qu'il n'y a pas d'espoir ? Ce qui est dit dans la deuxième partie de ce psaume fait référence à un épisode de l'histoire biblique, de l'histoire du peuple d'Israël, Massa, Meriba, qui signifie épreuve, dispute, querelle, font référence à un épisode relaté dans le livre de l'Exode, où le peuple d'Israël s'est révolté contre Dieu. En fait, ils sont plaints à Moïse, mais en se plaignant à Moïse, ils se plaignaient de Dieu, évidemment, du fait qu'ils étaient dans le désert et qu'ils mouraient de soif. Et ils regrettaient presque, finalement, d'avoir été délivrés d'Égypte et de l'esclavage. Dit au moins là, on était mieux, quand même. Donc, peu de temps après les prodiges que Dieu avait accomplis pour libérer son peuple de l'esclavage en Égypte, le peuple pouvait revenir en arrière, se disant que Dieu finalement ne s'occupait pas d'eux dans le désert. Ils avaient vite oublié ce que Dieu avait fait, ce que Dieu avait dit, et ils ne comprenaient plus pourquoi Dieu les emmenait ici et ne leur donnait pas à boire, et ils se sont révoltés contre le Seigneur. Leur incrédulité, leur manque de confiance en Dieu les a conduits à errer pendant 40 ans dans le désert. C'est ce que nous raconte l'histoire biblique. Mais cette histoire, qui est celle du peuple d'Israël, cette histoire est aussi un peu la nôtre. Notre cœur est-il vraiment différent du cœur des Israélites dans le désert ? Notre cœur ne risque-t-il pas aussi de s'égarer, de s'endurcir. En réalité, si ce psaume se termine mal, c'est sans doute pour créer en nous, qui le lisons, qui l'écoutons, une sorte d'électrochoc, de prise de conscience. Parce que finalement, il ne tient qu'à nous pour que ce psaume devienne positif à la fin. Il ne tient qu'à nous, qu'à notre cœur, de changer le ton négatif de jugement en ton positif de promesse. Parce que si Dieu ici parle d'un repos dans lequel son peuple n'est pas entré, c'est bien que Dieu a un repos à proposer. Et ce repos qu'il offre nous est accessible aujourd'hui encore. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux l'a bien compris, parce qu'il cite ce psaume. Il cite ce passage, mais il le cite sous l'angle de la promesse. Il le cite comme un appel pour nous aujourd'hui à entrer dans le repos du Seigneur. Je lirai l'intégralité de ces quelques versets tirés d'Hébreux 4, où ce psaume est cité. « En effet, nous qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos dont il a dit « J'ai donc juré dans ma colère, en aucun cas ils n'entreront dans mon repos. Ses œuvres étaient cependant faites depuis la fondation du monde. En effet, il a dit quelque part à propos du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et encore dans ce passage, en aucun cas ils n'entreront dans mon repos. Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer, et que ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle n'y entrèrent pas, à cause de leur refus d'obéir, il institue encore un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après par David, comme il a été dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous obstinez pas. » Autrement dit, si avec un cœur endurci et égaré, on n'entre pas dans le repos de Dieu, c'est bien avec un cœur ouvert et confiant que le repos de Dieu nous est promis. Ce repos, c'est celui du salut accordé en Jésus-Christ. Un salut que l'on reçoit par la foi, dans la confiance, que seul un cœur ouvert peut recevoir de la part du Seigneur. Alors simplement en conclusion, finalement, ce psaume, il se termine mal seulement si on ne retient pas la leçon du passé. Parce que si on reste attentif à la voix de Dieu et qu'on prend au sérieux ses mises en garde, alors nous n'avons rien à craindre. Au contraire, nous pouvons pleinement entrer dans le repos qu'il nous offre. Il offre ce repos à ceux qui gardent ou qui retrouvent un cœur ouvert et confiant. À ceux qui savent écouter la voix du Seigneur. Et si aujourd'hui, vous brisez votre carapace, vous retrouvez l'intimité avec Dieu, si aujourd'hui vous écoutez sa voix, alors vous pourrez pousser les cris de joie que ce début de psaume nous invite à pousser. Alors vous pourrez, d'un cœur ouvert et confiant, louer le Seigneur et acclamer le rocher de notre salut. Je vous invite à prendre quelques instants de silence. Parfois, il faut faire silence pour écouter. Restons juste quelques instants dans le calme, le silence, peut-être en demandant dans le silence de notre cœur au Seigneur de retrouver le chemin de notre cœur. Je terminerai ce temps de silence par une courte prière.